Nous sommes passés au sud d'Iving, où la femme de Lee se remettait en ce moment même de la naissance de son deuxième enfant, né à peine un mois auparavant. La circulation était lente, les gaz d'échappement nauséabonds. La moitié des passagers dans notre bus bondé fumaient. Dehors, où l'air était à coup sûr un peu moins vicié, les rues étaient saturées de véhicules se dirigeant vers le centre. Nous avons vu une voiture arborant « Nous t'aimons, Jackie !» écrit au blanc sur son pare-brise arrière, et une autre intimant « Hors du Texas, sale coco !» au même endroit. Le bus tanguait et progressait par embardée. Des grappes de gens de plus en plus nombreuses s'agglutinaient aux arrêts et ils nous montraient le point quand notre bus bondé les dépassait sans ralentir. À 10h15, nous sommes entrés dans Harry Hines Boulevard et avons dépassé un panneau indiquant la direction de Love Field. L'accident s'est produit 3 minutes après. Tout en le guettant, j'avais espéré qu'il ne se produirait pas. Alors, quand le camion Ben a grillé le feu rouge à l'intersection de Hines et Inwood Avenue, j'étais quand même à moitié préparé. J'étais déjà passé par là, en route pour le cimetière de Longview, à Derry. J'ai saisi Sadie par le cou et baissé sa tête vers ses genoux.
« Attention !»
Une seconde plus tard, nous étions propulsés contre la cloison séparant le siège du conducteur de l'habitacle. Bris de verre. Hurlements de métal. Les passagers debout ont basculé vers l'avant dans une confusion de cris, de bras, de sacs à main battant l'air, de chapeaux du dimanche de guingois. L'ouvrier blanc qui avait dit « Ah, pauvre de toi !» était enroulé sur le monnayeur à l'entrée de l'allée. La gouvernante, quant à elle, avait tout simplement disparu, ensevelie sous une avalanche humaine. Sadie saignait du nez et avait une ecchymose en train d'enfler comme une boulette de pâte à pain sous l'œil droit. Le chauffeur était affalé en biais derrière son volant. Le grand pare-brise avant était en miettes, et la vue sur la rue avait disparu, remplacée par une paroi métallique constellée de rouille, sur laquelle je pouvais seulement lire « Ravo public dalle ». L'odeur du goudron brûlant que transportait le camion était suffocante. J'ai fait pivoter Sadie vers moi. « Est-ce que ça va? Tu as les idées claires ?»«
Ça va. Un peu secoué, c'est tout. Si tu m'avais pas prévenu, j'aurais été plus amoché. »
Des gémissements et des cris de douleur montaient de l'enchevêtrement humain à l'avant de l'autobus. Un homme au bras cassé se dégagea de la mêlée et secoua le chauffeur, qui roula hors de son siège. Un éclat de verre était fiché au centre de son front.
« Oh, sacrebleu !»
s'exclama l'homme au bras cassé.
« Je crois bien qu'il est mort !»
Sadie s'est risquée jusqu'à l'homme qui s'était pris le monnayeur dans les valseuses et l'a aidé à venir s'asseoir à sa place. Il était blanc comme un linge et gémissait. Son copain noir m'a aidé à remettre la gouvernante sur ses pieds, quoique je doute que nous aurions pu faire grand-chose pour soulever ses 150 kilos si elle n'avait pas été parfaitement consciente et déterminée à nous aider. Elle saignait abondamment de la tempe et son bel uniforme était tout souillé. Je lui ai demandé si elle se sentait bien.
« Ah, je crois que oui, mais je me suis pris un fameux coup sur la cafetière. Sacré nom d'une pipe !»
Derrière nous, le bus était en émoi. Ça n'allait pas tarder à se transformer en mouvement de panique. Debout devant Sadie, j'ai solidement noué ses bras autour de ma taille. Vu l'état de mon genou, j'aurais probablement dû m'accrocher à elle plutôt que le contraire. Mais l'instinct est le plus fort.
« Il faut laisser tous ces gens descendre du bus !»
j'ai dit à l'ouvrier noir.
« Tirez sur la poignée !»
Il a essayé, mais la poignée était inamovible.
« Coincée !»
D'après moi, c'était pas ça. D'après moi, c'était le passé qui la maintenait fermée. Mais avec un seul bras solide, je ne pouvais pas l'aider à tirer. La gouvernante, dont tout un côté d'uniforme était maintenant imbibé de sang, m'a bousculé pour passer. J'ai senti les bras de Sadie me lâcher, puis elle m'a étreint solidement à nouveau. Le chapeau de la gouvernante avait un air penché et sa voilette était perlée de sang. L'effet était à la fois décoratif et grotesque. On l'aurait dit orné de minuscules boules de houx. Elle l'a rajusté selon l'angle approprié, puis a posé sa main sur la poignée chromée à côté de celle de l'ouvrier noir.
« Je compte jusqu'à 3 et on tire !» lui a-t-elle dit. « Prêt ?»
L'homme hocha la tête.
« 1, 2, 3 !»
Ils ont tiré, ou plutôt elle a tiré, assez fort pour déchirer sa robe sous le bras. Les portes en accordéon se sont dépliées. Derrière nous, un concert de faibles acclamations s'est élevé.
« Merci !»
a commencé à dire Sadie. Mais déjà je l'embarquais.
« Vite, avant d'être piétiné! Ne me lâche pas !»
Nous fûmes les premiers à sortir du bus. J'ai orienté Sadie vers Dallas.
« Allons-y !»« Jake, ces gens ont besoin d'aide !»« Et je suis sûr qu'elle est en train d'arriver. Ne regarde pas en arrière !»«
Regarde devant toi, parce que c'est de là que la prochaine tuile arrivera. »«
Encore combien de tuiles ?» Beaucoup ?
Tant que le passé pourra nous en balancer, j'ai dit. Il nous a fallu 20 minutes pour franchir une distance de 4 rues. Je sentais mon genou enflé et la douleur y palpiter à chaque battement de cœur. Nous sommes arrivés à un banc et Sadie m'a dit de m'asseoir.
« On n'a pas le temps. Asseyez-vous, monsieur. »
Elle m'a collé une bourrade inattendue et je me suis affalé sur le banc dont le dossier portait une réclame pour un salon funéraire du quartier. Sadie a hoché la tête d'un air affairé, comme une femme qui vient de s'acquitter d'une pénible corvée, puis s'est avancée sur la chaussée dans Harry Hines Boulevard en ouvrant son sac à main et en fouillant dedans. Les palpitations dans mon genou se sont momentanément interrompues, tandis que mon cœur remontait dans ma gorge et s'arrêtait. Une voiture a fait une embardée pour l'éviter, de justesse, et klaxonné. Le conducteur a brandi le poing en continuant sa route, puis levé le majeur en prime. Quand je lui criais de revenir, elle n'a même pas regardé dans ma direction. Elle a sorti son porte-monnaie, avec les voitures qui passaient et la frôlaient, le vent de leur course faisant voltiger ses cheveux autour de son visage scarifié. Elle était aussi imperturbable qu'un ciel d'été. Ayant trouvé ce qu'elle cherchait, elle a rejeté le porte-monnaie dans le sac et brandi un billet vert bien haut au-dessus de sa tête. On aurait dit une pom-pom girl de lycée à un rassemblement de supporters.
« $50 !»
s'écria-t-elle.
« $50 pour m'emmener à Dallas, Main Street! Je veux voir Kennedy! $50 !»
J'ai pensé, ça marchera jamais. Tout ce qu'elle va récolter, c'est se faire écraser par le passé tenace. Une Studebaker rouillée s'est arrêtée devant elle dans un crissement. Le moteur claquait et cognait. Il y avait une orbite creuse à l'emplacement d'un des phares. Un type en pantalon large et maillot de corps à bretelles est descendu. Sur la tête, et enfoncé bien bas jusqu'à ses oreilles qui dépassaient comme des feuilles de chou, il portait un chapeau de cow-boy en feutre vert avec une plume indienne sous le ruban. Il souriait, laissant voir des mâchoires où manquaient au moins 6 dents. Il m'a suffi d'un coup d'œil pour me dire « Voilà la tuile suivante qui arrive. »«
Ma'am, vous êtes cinglé !»
a dit le cow-boy à la Studebaker.
« Vous voulez $50 ou pas? Emmenez-moi à Dallas, c'est tout ce que je vous demande !»
L'homme lorgna le billet en clignant des yeux, aussi indifférent que Sadie aux voitures qui klaxonnaient en se déportant. Il ôta son chapeau, le fit claquer sur les jambes de son pantalon qui tombait sur ses hanches osseuses, puis le remit sur sa tête en le renfonçant solidement, jusqu'à ce que le bord bute sur le sommet de ses oreilles décollées.
« Ma'am, c'est pas 50 ça, c'est 10.
J'ai le reste dans mon porte-monnaie.
Alors, si je me servais ?»
Il a tendu la main vers le grand sac à main de Sadie et attrapé une courroie. Je suis descendu du trottoir en me disant qu'il allait la voir et se tailler avec avant que je puisse intervenir. Et que dans le cas contraire, il me rétamerait. Il avait beau être maigre, je faisais quand même pas le poids. Et lui avait ses 2 bras en bon état.
Sadie tenait bon. Tiraillé dans 2 directions opposées, le sac béait comme une bouche d'agonisant.
Sadie a plongé sa main libre à l'intérieur et en a sorti un couteau de boucher à l'aspect familier. Elle en a donné un coup à son assaillant et lui a ouvert l'avant-bras, du poignet au pli du coude. Surpris, le type a hurlé de douleur, lâché la courroie du sac et est reculé, les yeux fixés sur elle.
« Espèce de chienne enragée ! Tu m'as coupé !»
Il s'est précipité vers la portière de sa voiture restée ouverte, comme pour mieux se faire emplafonner. Sadie s'est avancée vers lui, en zébrant l'air de sa lame sous son nez. Ses cheveux étaient tombés sur ses yeux. Ses lèvres étaient soudées en une ligne inflexible. Le sang du cow-boy blessé tombait à grosses gouttes sur la chaussée, et le flot des voitures continuait à s'écouler. Incroyable mais vrai, j'ai alors entendu quelqu'un crier
« Fais-lui sa fête, madame !»
Les yeux rivés sur le couteau, Studebaker Cowboy a reculé vers le trottoir. Sans me regarder, Sadie a dit
« À toi de jouer, Jake !»
Pendant une seconde, je n'ai pas compris. Puis je me suis souvenu du 38. Je l'ai sorti de ma poche et braqué sur le type.
« Tu le vois, celui-là, Tex ? Il est chargé. C'est aussi siphonné qu'elle !»
Il tenait son bras plaqué contre sa poitrine, imbibant de sang son Marcel. Sadie a couru vers le côté passager de la Studebaker et ouvert la portière. Elle m'a regardé par-dessus le toit et m'a fait un geste impatient de la main. Je n'aurais jamais cru pouvoir l'aimer davantage. Mais à ce moment-là, je me suis rendu compte que je me trompais.
« T'aurais pu avoir l'argent et continuer à conduire !» j'ai fait au mec. « Maintenant, on va voir comment tu cours. Dépêche ou je te colle une balle dans la jambe et tu pourras plus courir du tout. »« T'es un putain de salopard !» qu'il m'a dit. « Ouais, c'est vrai. Et toi, t'es un putain de voleur qui va bientôt se faire crever la paillasse. »
J'ai armé le revolver. Studebaker Cowboy m'a pas mis au défi de m'exécuter. Il s'est retourné et, tête baissée, a filé vers l'ouest par Heinz, berçant son bras, jurant et répandant une traînée de sang.
« Et t'arrêtes pas avant d'arriver à Love !»
j'ai crié dans son dos.
« C'est à 5 bornes, tout droit dans la direction où tu vas. Dis bonjour au président en passant. Mon Jake, sors-nous d'ici avant que la police arrive. »
Je me suis glissé au volant de la Studebaker en grimaçant quand mon genou enflé a protesté. C'était une voiture à vitesse standard, ce qui voulait dire que je devrais appuyer avec ma mauvaise jambe sur l'embrayage. J'ai reculé le siège aussi loin que j'ai pu, entendu craquer le tas de détritus écrabouillé à l'arrière, puis passer la première et bouger. « Ce couteau, j'ai dit, c'est pas celui avec lequel Johnny m'a coupé. Ouais. » Le shérif Jones me l'a rapporté après l'enquête. Il pensait qu'il était à moi, et il avait sans doute raison. Mais pas de chez moi, à Beatrice. Je suis presque sûr que Johnny l'a emporté de notre maison de Savannah. Je le garde dans mon sac depuis, parce que je veux quelque chose pour me protéger, au cas où. Ses yeux se sont emplis de larmes. Et si ça, c'était pas un cas d'au cas où, alors je m'y connais pas. Remets-le dans ton sac. J'ai enfoncé l'embrayage, qui était horriblement dur, et réussi à passer la seconde. La voiture sentait le poulailler qui n'aurait pas été nettoyé depuis une bonne dizaine d'années.
« Ça va mettre du sang partout. Remets-le quand même. Tu peux pas te promener en ville en brandissant un couteau, surtout avec le président qui arrive. »
Mais ma pépette, c'était plus que courageux. Elle a rangé le couteau, puis s'est essuyé les yeux avec les poings, comme une petite fille qui vient de se couronner les genoux. « Il est quelle heure ?»«
11h-10. Kennedy atterrit à Love Field dans 40 minutes. »
Elle a dit « Tout se ligue contre nous, n'est-ce pas ?» Je lui ai décoché un regard et j'ai dit « Maintenant, tu comprends. » Nous avons pu atteindre North Pearl Street avant que le moteur de la Studebaker n'explose. Des bouillons de vapeur ont commencé à sortir de sous le capot. Un truc métallique est tombé en claquant sur la chaussée. Sadie a poussé un cri de dépit, s'est donné un coup de poing sur la cuisse et a lâché plusieurs gros mots. Mais moi, j'étais presque soulagé. Au moins, je n'aurais plus à me battre avec l'embrayage. Je suis passé au point mort et j'ai laissé la voiture fumante rejoindre le bord du trottoir en roue libre. Elle s'est immobilisée à l'entrée d'une ruelle sur les pavés de laquelle était peint « Ne pas entraver la sortie ». Mais après une agression à main armée et un vol de voiture, cette infraction-là m'a semblé mineure. Je suis descendu et j'ai claudiqué jusqu'au trottoir où Sadie m'attendait déjà. « Quelle heure maintenant ?» m'a-t-elle demandé. « 11h20. »« Nous devons aller loin ?»« Le TSBD, à l'angle de Houston et Elm. 5 bornes. Peut-être plus. » Les mots n'étaient pas plus tôt sortis de ma bouche que nous avons entendu un rugissement de réacteur dans le ciel derrière nous. Nous avons levé les yeux et vu Air Force One amorcer sa descente. Sadie a repoussé ses cheveux de son visage d'une main lasse. « Qu'allons-nous faire ?»« Là, tout de suite, nous allons marcher, » j'ai dit. « Passe ton bras autour de mes épaules. Laisse-moi prendre un peu de ton poids sur moi. » « Pas la peine, ma pépette. » Mais une rue plus loin, je l'ai fait.